podcasts de Radio Vatican.
Le pape émérite Benoît XVI fête ses 90 ans ce dimanche 16 avril. Du monde entier, lettres et cadeaux affluent vers le monastère Mater Ecclesiae, ce couvent niché au cœur des jardins du Vatican, où Benoît XVI vit depuis sa renonciation au trône de pierre en 2013. De nombreux ouvrages ont été publiés à l'occasion de cet anniversaire, biographies fouillées, analyses ou hommages appuyés à l'homme, au pape, mais aussi aux théologiens. La théologie, c'est en effet le fil rouge de la vie de Joseph Ratzinger, lui qui fut universitaire et professeur au sein de prestigieuses facultés allemandes, expert au Concile Vatican II, où il se fit remarquer par la clarté de sa pensée, puis préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 24 ans, avant d'être le 265e successeur de Pierre, de 2005 à 2013, soit 8 années d'un pontificat fécond en encycliques, discours et textes de référence. La théologie, c'est aussi l'un des traits essentiels de la personnalité de cet intellectuel brillant mais discret, homme de contemplation qui est cependant toujours resté attentif au monde et à ses questionnements. Le philosophe français Rémi Brague, lauréat du prix Ratzinger en 2012, revient avec nous sur les points centraux de la théologie de Benoît XVI, notamment sur l'importance du dialogue possible et nécessaire entre foi et raison, sur cette quête de la vérité, cette recherche du bon et du bien, si caractéristique de cette théologie ratzingerienne tournée vers Dieu et au service de l'homme.
Écoutez, il me semble assez évident, c'est une chose dont nous souffrons. C'est une épidémie qui se répand, semble-t-il, en Occident, ce raz-de-marée, ce tsunami affectif, qui fait que l'on a de plus en plus de mal à proposer des arguments, lesquels sont remplacés le plus souvent par l'exhibition de ces sentiments, surtout lorsque ces sentiments sont tristes. Bon, celui qui souffre vraiment mérite effectivement notre compassion, mais cela n'autorise pas à dire n'importe quoi. Il faut que je puisse transformer mon impression en quelque chose que je vais pouvoir communiquer, mais communiquer vraiment, pas seulement faire ressentir dans la compassion, dans une empathie très souvent d'ailleurs illusoire. Il va falloir pouvoir exprimer ce que je pense et pas seulement ce que je sens. Et de ce point de vue-là, le pape émérite était passé virtuose. Il est parfaitement capable de prendre, disons, une impression qu'il repère dans l'opinion contemporaine et de la transformer en quelque chose avec quoi on peut argumenter. Et de ce point de vue-là, je crois que ces interventions étaient un très grand bienfait parce qu'elles nous ramenaient à la sobriété, à une vision dégrisée des choses, et précisément parce qu'elle est dégrisée, on pouvait la transmettre.
Un autre point saillant de la théologie ratzingerienne et du pasteur Benoît XVI, c'est cette quête et cet amour de la vérité. Comment résumeriez-vous cette quête et, selon vous, de quelle manière l'a-t-il imprimée à son pontificat ?
La vérité doit être réaffirmée comme ce en quoi il nous faut nous mettre en quête, ce de quoi il faut nous mettre en quête, à une époque où, justement, la vérité devient elle-même, pour reprendre un titre célèbre, suspecte. On entend bien des gens dire « Bon, la vérité, c'est bien joli, mais vous voulez m'asséner votre vérité, j'ai ma vérité à moi que je préfère à la vôtre, et je ne vois pas pourquoi la vôtre serait meilleure que la mienne. » C'est un renoncement à l'idée même de vérité. S'il existe une vérité que nous devons non seulement rechercher, mais aimer, eh bien c'est cette vérité qui va nous dire à nous-mêmes ce que nous sommes, qui va nous éclairer sur ce que nous sommes, ce qui n'est pas toujours très agréable. Alors je crois qu'il faut faire très attention lorsque l'on prétend se passer de l'idée de vérité ou la relativiser et se demander ce que l'on cherche vraiment. Est-ce que l'on cherche vraiment davantage de liberté ou est-ce qu'au contraire, on ne cherche pas à se débarrasser d'une instance désagréable parce qu'elle nous jugerait? Je crois que c'est cet examen de conscience essentiel auquel il faut se livrer et auquel l'œuvre entière du pape émérite nous invite.
Parlant de son prédécesseur, le pape François a dit que Benoît XVI était l'exemple même du théologien à genoux. Qu'est-ce que cette expression évoque pour vous ?
D'une certaine manière, une tautologie. On se représente un peu trop souvent le théologien, au contraire, debout, faisant une conférence. On se le représente parfois assis, comme le professeur, qui enseigne avec autorité du haut de sa chaire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le prie-Dieu. C'est ce qui assure que l'on ne parle pas de soi-même. Si l'on se prêche soi-même, la parole vaudra exactement ce que vaudra la petite personne qui y sera assise. Si en revanche, le théologien est avant tout quelqu'un qui cherche le contact avec Dieu, quelqu'un qui cherche à se soumettre à Dieu, alors son discours a une toute autre tonalité. Alors pourquoi ça doit se faire à genoux ? Eh bien, ce n'est pas le rapport de l'esclave prosterné devant son maître, c'est l'attitude de l'hommage de celui qui a compris la parole du Christ. « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Le théologien à genoux, c'est celui qui exprime justement cette amitié avec un Dieu qui a bien voulu condescendre à nous prendre comme amis et qui essaye d'exprimer avec ses pauvres mots humains ce dont il s'agit.
Est-ce qu'il vous vient en tête un texte ou une homélie ou un livre de Benoît XVI Ratzinger qui vous marque particulièrement et qui vous inspire ?
Eh bien, j'ai été très marqué par le discours qu'il a prononcé aux Bernardins, qui parlait de « quaerere Deum », de « chercher Dieu », qui expliquait que la culture n'était pas une fin en soi, que ce n'était pas une manière de se faire plaisir à soi-même, mais une manière de chercher le bien, de chercher le vrai, de chercher le beau, bien entendu, qui est la splendeur du vrai. Et tout cela, eh bien, j'ai essayé de m'en inspirer.
Des propos recueillis par Manuela Affigy.